écologie est arrivée dans le vocabulaire du monde occidental. Il y avait un biologiste allemand du nom de Hans Eckel, en 1866, a inventé ce terme pour mettre, pour conscientiser les gens par rapport au développement, par rapport à l'équilibre de l'environnement. L'environnement là où ils habitent. Donc, l'écologie, c'est lui qui a invité ce terme. Et aujourd'hui, si vous faites du recyclage, c'est de l'écologie. Et au cours des années, on a pensé à l'épuisement des ressources naturelles, qui est devenu un sujet majeur. Au point où, en 2004, des chercheurs américains de Global Footing Network ont attiré l'attention des gens sur l'épuisement des ressources naturelles au niveau mondial. Au niveau spirituel, les ressources divines, les ressources, les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. C'est ce que la parole nous dit. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons qu'il y a un lien très étroit entre les bontés de Dieu et le pardon. Dans le psaume 86, nous lisons verset 5, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Le Seigneur est plein d'amour, il est bon. Vous vous rappelez, je vous avais partagé à la dernière fois que je vous ai vu, vous vous rappelez ce que Pierre, la question que Pierre a posée au Seigneur Jésus. Quand Pierre a dit au Seigneur, « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» On trouve ça dans Matthieu 18. Et Pierre, se basant sur ce qui se passait à son époque, comment les rabbis ont enseigné, après 3 offenses, plus de pardon. Pierre n'attendait même pas que Jésus lui donne la réponse. Pierre a dit au Seigneur, « Serait-ce jusqu'à 7 fois que je dois pardonner ?» Mais la réponse de Jésus, a dit, « 70 fois 7. » Ce qui fait un total de 490 fois. Donc, le pardon, on ne peut pas négocier le pardon. Il faut pardonner autant de fois qu'une personne vient demander le pardon. Il n'y a pas de place pour la rancune parmi les enfants de Dieu, pour l'amertume. Dans sa bonté, Dieu nous pardonne et oublie nos péchés. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Lamentations 3, versets 18 à 27. Lamentations 3, 18 à 27. Lamentations 3, 18 à 27. Et je commence. Quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Donc, c'est le texte que nous avons ce matin. Et nous allons voir ensemble le contexte de ce texte, de Lamentation, le contexte du texte. Et qu'entend-on par bonté inépuisable de Dieu? En deuxième lieu, et les effets des bontés de Dieu dans la vie du croyant. C'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Le contexte du texte. Le prophète Jérémie, qui est considéré parmi des grands prophètes, était troublé. Il avait des lamentations, des pleurs, à cause d'une situation, la situation du peuple de Dieu. Le fait de dire que les hommes ne pleurent pas pour exprimer leurs sentiments n'est pas toujours vrai. Le prophète nous a dit que Jésus a pleuré sur Jérusalem. La situation du peuple de Dieu, déjà en 722-721 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël, le royaume d'Israël, vous savez, le peuple de Dieu était divisé en deux royaumes. Le royaume d'Israël, les Assyriens sont venus et ils ont amené ce royaume en captivité, en Assyrie. Il restait le royaume de Juda, avec les promesses de Dieu. Dieu avait dit qu'il y aura toujours un roi sur le trône de David. Mais ce roi en question se réfère à Jésus-Christ. Le royaume de Juda, le roi de Babylone est venu en 587 environ avant Jésus-Christ. Ils ont siégé la ville de Jérusalem. Ils sont entrés dans la ville. Ils ont rasé les murs. Et c'était la désolation. Et ce qui s'est passé, le dernier roi, Sédécias, les Babyloniens qui étaient tellement méchants, ils l'ont attrapé, ils ont fait venir le fils, ils l'ont tué, ce fils, ils ont massacré la famille, les gens de la famille. Et ce qu'ils ont fait au roi, ils ont percé les yeux du roi Sédécias, et on l'a amené en captivité. Ils ont pris tous les gens de Juda, des prêtres, des gens de grandes familles, nobles, les ont amenés en captivité. Et Jérémie était dans la tristesse avec tout ce qui s'est passé. La foi des exilés fut ébranlée, car Juda, il n'y avait plus de temps pour adorer. Ils étaient en exil. Où sont les promesses de Dieu? Dieu a fait tellement de promesses. Et est-ce que Dieu reste toujours fidèle à ses promesses? C'était ça les questions qu'on se posait. Une autre chose qui était frappante, le fait que le peuple de Juda était vaincu, ça paraît que le dieu idole, Marduk, qui était le dieu de ces gens-là, de Babyloniens, il semble que c'est plus grand que l'Éternel. Hein? Et souvent, quand nous sommes dans la détresse, il y a toutes sortes de questions qui nous posent, qui nous arrivent. Où est notre Dieu? C'est ce que dans le psaume 42, c'est le psaume du fils de Corée, a dit, « Mes larmes sont de ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? » Mais ça ne s'arrête pas là, dans ce psaume. Un peu plus loin, on voit le psalmiste, le fils de Corée, ont pris courage. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est ce qui doit nous arriver quand nous traversons les moments difficiles. Il y a toutes sortes d'idées qui nous frappent à l'esprit, mais de nous rappeler la fidélité de Dieu, de nous rappeler qui est Dieu, le Dieu qui tient sa promesse, qui est au courant aussi dans toutes les épreuves qui nous traversent. Donc, c'était une dure épreuve quand les Babyloniens sont venus et ont humilié le peuple de Dieu. Dernièrement, il y a un jeune homme qui est venu me voir, qui passait par l'épreuve. Il venait de perdre son père et en quelques mois, il a perdu sa mère. Ils étaient tellement attachés à ses parents. Il me disait, mais je pensais que les chrétiens étaient des personnes blindées, des personnes qui devaient être exemptes de grosses épreuves comme ça. Mais des petites épreuves, ce n'est pas grave. Mais je lui ai dit, mais écoute, as-tu lu Job, l'histoire de Job? Comment Dieu a permis qu'il soit éprouvé? Mais Dieu était avec Job. Job, dans l'épreuve, a eu cette foi, a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ça, c'est la foi ancrée dans l'enfant de Dieu, de croire dans l'épreuve. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est là pour nous élever. Donc, Dieu avait permis que Judas, que les Babyloniens viennent pour châtier Israël. Israël se livrait dans l'idolâtrie. Au lieu d'adorer le vrai Dieu, il se livrait dans l'idolâtrie et Dieu avait permis que les Babyloniens viennent pour leur donner un châtiment. Dieu châtie toujours avec amour. Comme on voit dans l'Épître aux Hébreux 12, verset 6, « Car Dieu châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme des fils. Car si nous sommes exempts du châtiment auquel tous ont part, nous sommes des enfants bâtards, des enfants illégitimes et non des fils. Dieu permet que les épreuves arrivent. Ça ne veut pas dire quand nous sommes éprouvés, c'est Dieu qui nous châtie. Ça ne veut pas dire cela. Mais dans certaines occasions, Dieu châtie ses enfants avec amour. Et c'est ce que Dieu a fait avec son peuple qui était ancré dans l'idolâtrie. Et malgré le message de Jérémie, le peuple ne voulait pas se repentir. Et Dieu a envoyé ce châtiment aller en Babylone pour 70 ans, pour réfléchir, pour reconnaître Dieu. Et plus tard, on va voir quand les Israélites reviennent de la captivité, ils étaient changés. Ils ont appris la leçon. C'est alors qu'on voit qu'on s'appliquait à la loi, etc. Donc, le prophète était dans l'angoisse. Et dans son angoisse, il prophétisait aussi au sujet de Jésus qui devait mourir à la croix. Il prophétisait aussi au sujet d'Israël qui devait subir des tribulations. Le prophète dit, quand je pense à ma misère, à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais le prophète ne s'est pas arrêté là. C'est ce qui nous arrive souvent. Quand nous sommes dans éprouvés, on voit juste l'épreuve. Et il y a toutes sortes de questions qui nous frappent. Et l'adversaire peut utiliser toutes ces choses pour nous écraser. Mais il faut passer à l'autre étape. L'étape de l'espérance. De savoir que nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Dieu a les regards sur nous. Dieu nous voit. Il nous entend. Il connaît nos douleurs. N'est-ce pas, la parole nous dit dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et aujourd'hui, Dieu nous a laissé une provision. Provision, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre souverain sacrificateur, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, sans commettre de péché. Il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Jésus-Christ a passé par ce chemin, dans Hébreux 4, verset 15. Oui, Jésus-Christ peut nous secourir dans nos épreuves. Il est là. Il ne nous abandonne jamais. Le prophète n'a pas décidé de sombrer dans la déprime, mais il pensait au caractère même de Dieu, un Dieu de compassion, un Dieu plein de tendresse. C'est ce que nous devons faire aussi, de nous rappeler qui est notre Dieu, qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. Dieu veut notre bien. Les bontés inépuisables de Dieu. Définition du mot bonté. En prenant le mot dans son origine latine, c'est bonitatem, qui signifie qualité de ce qui est bon. Qualité de ce qui est bon. La bonté désigne la vertu morale de bienveillance, parce que Dieu est bon. Le contraire de la bonté, c'est la méchanceté. Ces jours-ci, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui expriment la méchanceté. Vouloir intentionnellement dire des choses mal aux autres. Et il continue. Même des gens haut placés qui devaient être des exemples ne sont pas des exemples à suivre. Mais notre Dieu est plein de bonté. Donc, nous devons suivre l'exemple de notre Dieu. Le mot bonté, le mot hébreu, bonté, se trouve 250 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. La bonté est la douceur agissante de Dieu. Imaginons un grand réservoir qui est alimenté par une source inépuisable. Et c'est là qu'on a la bonté de Dieu. Et cette bonté est toujours disponible, 24 heures sur 24. C'est comme un grand magasin, on peut aller n'importe quand. Mais ce qui est important pour nous, quand on se lève, nous pouvons nous rappeler que les bontés de l'Éternel se renouvellent ce matin pour nous. Ses compassions se renouvellent. Et ce que Dieu dit est vrai, c'est sa parole. Quand nous traversons des moments difficiles, rappelons-nous que Dieu a un projet pour nous. C'est Jérémie qui a dit dans Jérémie 29, 11, verset que vous connaissez sans doute. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est le projet de Dieu pour nous. Donc, Dieu nous aime. C'est le Dieu de l'univers qui a ce projet pour nous. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de passer, de vivre. Rappelons-nous que notre Dieu connaît nos difficultés. Notre Dieu connaît, il connaît nos besoins. Il est là pour nous secourir. Dieu veut notre bien, notre bonheur, non notre malheur. Dans le psaume 31, verset 19 et 20, « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. » Dieu a de la bonté en réserve pour nous. Pour ceux qui le craignent. Pour nous, il a sa bonté. Ça, on peut dire, sa valise est remplie de bonté. Son réservoir est rempli de bonté pour nous. Il veut notre bien. Combien, on a parlé ce matin, nos mémoires, on est oublieux parfois. C'est bon de se rappeler de cette vérité de la parole de Dieu, que cette parole rentre dans notre cœur pour nous rappeler que Dieu veut notre bien. Et quand les Israélites étaient dans le désert, ils devaient sortir de leur tente chaque matin pour aller ramasser la manne, cette manne qui est le pain du ciel qui est descendu pour eux. Et c'est ainsi que la bonté de Dieu se renouvelle pour nous. Chaque matin, et sa compassion, Dieu a les regards sur chacun de nous qui se renouvelle. La compassion, toujours sur son origine latine, c'est compassio, qui veut dire compatie. Compatie veut dire partager les souffrances d'autrui, souffrir avec. Quand nous sommes dans la souffrance, Dieu souffre avec nous. Notre souverain sacrificateur souffre avec nous. Et c'est dommage, quand nous sommes dans la souffrance, nous avons notre adversaire qui nous rappelle « Où est ton Dieu ? Regarde, tu souffres !» Il faut avoir le courage pour lui dire « Non, mon Dieu est vivant. Il est avec moi. Je connais mon Dieu. Il a des projets pour moi. Il ne va jamais m'abandonner. » Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais Dieu connaît vos besoins. Dieu n'est pas celui qui croise les bras et nous laisse souffrir. Il compatit à nos faiblesses. La fidélité de Dieu est grande. Il est digne de confiance. C'est ce que nous dit, on voit dans le texte. Et le prophète Jérémie, dans sa misère, s'est rappelé de ces choses, du caractère, des attributs fondamentaux, les attributs fondamentaux de Dieu, que Dieu est fidèle. Il est immuable. Dieu tient toujours ses promesses. Il est fidèle. Quelqu'un m'a parlé dernièrement d'un ami d'enfance. Un ami d'enfance, ils vivaient tellement bien ensemble. Il s'est passé quelque chose de très banal. L'ami a coupé le pont, ne voulait rien savoir. Et la personne se sentait très déçue. Mais nous étions amis. Et malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Nous avons un ami fidèle qui ne nous décevra jamais. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons tout lui confier nos problèmes. Il sait de quoi nous sommes formés. Il est là pour nous aider. Maintenant, voyons les effets des bontés de Dieu dans la vie du croyant. Les bontés de Dieu envers nous sont des manifestations concrètes et visibles de son amour, de sa miséricorde. Les actes tangibles qui montrent que Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. On se rappelle quand Dieu a choisi Abraham, il a béni Abraham pour qu'Abraham soit une source de bénédiction pour toutes les nations. Et une personne qui est bénie est une bénédiction pour sa famille, pour son assemblée, pour son église et pour son entourage. Nous sommes bénis de Dieu. Abraham, Dieu l'avait béni pour qu'il soit une source de bénédiction pour toutes les nations. Et cette bénédiction s'accomplit en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est appelé, à l'évangile de Jean, le bon berger. Le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Le bon pasteur. Vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait de mauvais pasteurs. Des mauvais pasteurs. Et même dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 34, on trouve des blâmes aux mauvais pasteurs qui ne faisaient pas leur travail, qui ne prenait pas soin du troupeau. Mais Jésus-Christ, lui, il est appelé le bon pasteur des brebis, dans Jean 10. Il est aussi le grand pasteur. C'est le présent. Il est notre grand pasteur, le grand berger. C'est lui qui nous permet d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Et dans le futur, il est aussi appelé le souverain berger. Le souverain berger, quand il viendra chercher son église, il donnera la couronne, ce que Jacques appelle la couronne de vie, la couronne de justice qui nous est réservée. Rappelons-nous que nous serons couronnés après la bataille. Dieu nous couronnera. Je ne sais pas ce que nous allons faire avec cette couronne. Pas une couronne de gloire, sans doute. Nous allons déposer cette couronne au pied de l'agneau qui a été immolé. Nous ne savons pas comment. Les 24 vieillards ont fait, toujours est-il, nous serons couronnés et toute la gloire viendra à Jésus-Christ. Le prophète mettait sa foi en Dieu. Ce que Dieu est, ce qu'il a fait et ce qu'il fera, c'est ce que nous devons faire aussi. De nous rappeler que notre Dieu ne peut mentir. Ce qu'il dit, il a la puissance et la volonté pour l'accomplir. C'est la parole de Dieu, c'est ma parole. Notre Dieu, la parole est puissante. Nous devons croire dans ce que Dieu dit, croire dans sa fidélité, parce que Dieu ne peut mentir. Donc, Jésus a dit quelque chose. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, l'amour, c'est un baromètre qui permet au monde de savoir si nous sommes des disciples de Christ. C'est la parole de Jésus. Donc, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pour montrer notre obéissance à Dieu et par notre amour, nous pouvons être le reflet de Christ. Le reflet de Christ. Quand les gens nous regardent, ce sont les effets des bontés de Dieu envers nous. Autre effet aussi, la parole nous demande dans Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Pardonnez réciproquement. Et un chrétien a déjà dit, nous avons toute l'éternité pour vivre ensemble. Nous qui sommes chrétiens. Donc, nous devons nous entendre ici-bas pour vivre l'amour que Christ a mis dans notre cœur l'un pour l'autre. C'est la parole du Seigneur. Il n'y a pas de place pour l'amertume parce que Dieu fait son travail en nous. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous savez, dans ce monde, c'est très difficile d'être en silence. Mais, vous savez, en musique, il y a une note qui s'appelle le silence. Bon. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand on attend en silence, ça ne veut pas dire qu'on reste sans rien faire. Nous avons la foi, nous attendons avec espérance, parce que nous savons la foi que Dieu nous donne, nous savons qu'il a la puissance d'accomplir ce qu'il a dit. Mon âme en silence se tient devant toi. Mon âme en silence se tient devant toi. Oh, rends ta présence sensible à ma foi. Je ne veux connaître aucune autre voix que la tienne, ô Maître, toi seul, parle-moi. Parole bénie de mon Rédempteur, parole de vie, pénètre en mon cœur. Oui, daigne m'instruire et dis tout, Seigneur, tout ce que dois dire à ton serviteur. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand on attend en silence, on espère en lui. Nous savons que ce qu'il a dit, il a la puissance de l'accomplir. Donc, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Quotidiennement, notre espérance est inébranlable parce que nous croyons dans un Dieu fidèle. Un Dieu qui tient sa promesse. Et notre foi est ancrée comme un bateau. Je ne sais pas si vous regardez un bateau qui est ancré dans un port. Malgré la tempête, le bateau reste là. Notre foi est ancrée en Jésus-Christ. Donc, c'est le privilège que nous avons, malgré les épreuves qui nous arrivent. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous savons que Jésus-Christ est victorieux, il nous donne la victoire dans l'épreuve. Il ne va pas nous écraser, Il n'est pas là pour nous juger. Nous pouvons toujours faire appel à lui. Sa bonté, sa compassion nous accompagne quotidiennement. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as laissée, qui nous enseigne. Gloire à toi, Seigneur, pour la puissance de cette parole, que ta parole fasse effet dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.